Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
19h, c'est l'heure. Face à l'info, démarre. Marc Monnet est en forme. Il a trouvé un endroit où garer sa voiture toute neuve.
Où loger sa voiture, enfin.
Oui, parce qu'il achète une voiture, mais il n'a pas de parking. Donc ça y est, il a un parking, il est content. Et il a la pêche. Allez, c'est parti, Simon Guillain, l'info du soir.
Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. Vers un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les deux pays ont commencé à délimiter leurs frontières communes après des décennies de conflits. Le président azerbaïdjanais assure que quelques détails restent tout de même à régler. Cet accord mettrait donc fin à des décennies d'affrontements autour du territoire du Haut-Karabakh. Après une interminable bataille, le Parlement britannique a finalement adopté le projet de loi sur l'expulsion de migrants au Rwanda. Tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni seront donc immédiatement envoyés vers ce pays. Le Conseil de l'Europe ainsi que l'ONU appellent Londres à revenir sur cette décision. Et puis dans la Manche, nouveau drame migratoire. 5 personnes, dont une fillette de 7 ans, sont décédées au large de Viremeux dans le Pas-de-Calais. 112 personnes se trouvaient à bord de cette embarcation, notamment des Syriens et des Irakiens. Ce nouveau drame porte à au moins 15 le nombre de migrants décédés en 2024 en tentant justement de traverser la Manche, Christine.
Merci beaucoup Simon Guillain. Et au sommaire ce soir, sorti de l'Union européenne et subissant la vague migratoire, le Royaume-Uni a décidé de rendre possible son projet d'expulsion des migrants illégaux sur son territoire vers le Rwanda. Un avion avait été bloqué, une loi annulée, mais cette fois le Premier ministre britannique Rishi Sunak a obtenu l'adoption de la loi, loi dénoncée par des experts de l'ONU et des associations. En quoi cette solution d'expulsion est-elle réaliste? L'édito de Mathieu Bock-Côté. 200 jours après l'horreur du 7 octobre, les actes antisémites sont en hausse en France. Ce soir, nous allons nous intéresser aux actes antichrétiens, alors que la France enregistre 2 à 3 actes antichrétiens par jour, selon le ministère de l'Intérieur. Églises ou cimetières sont régulièrement saccagées dans une indifférence totale. Comment expliquer l'invisibilisation de ces actes au niveau religieux, médiatique et politique? Le décryptage de Dimitri Pavlenko. C'est la journée mondiale du livre aujourd'hui, une journée là aussi dans l'indifférence la plus totale. Le livre perd de plus en plus son intérêt vis-à-vis de certains, ce qui impacte l'esprit critique, le bon sens et bien sûr l'éducation. Hier, l'INSEE révélait qu'un adulte sur 10 a des difficultés à l'écrit. En même temps, le gouvernement prônait l'internat pour améliorer l'éducation. Quelle solution pour l'éducation? L'internat, le livre, l'écrit? Le regard de Marc Monod. Une semaine après la mort de Philippe, 23 ans, tabassé à mort à Grande-Synthe, on s'arrêtera ce soir sur l'application Coco, utilisée pour tendre un guet-apens au jeune homme. Cette messagerie en ligne a la réputation sulfureuse, homophobie, drogue, pédocriminalité, tout ce qui est interdit a droit de citer sur cette application. Comment expliquer l'interdit et l'horreur à portée de clic en toute impunité? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis après Rima Hassan, Mathilde Panot a elle-même annoncé être convoquée par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme en lien avec les actes du 7 octobre. Selon Jean-Luc Mélenchon, sa provocation est un événement sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Alors que l'attitude de LFI choque depuis près de 7 mois, les convocations semblent surprendre. Que comprendre? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure avec nos mousquetaires ce soir. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver ce soir, Mathilde Panot, et à la une de l'actualité ce soir. On en parlera surtout dans votre deuxième édito. Mais avant, je voudrais quand même vous montrer cette affiche, puisqu'elle a beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, contre la censure. Personne ne nous empêchera, voilà cette affiche sur les réseaux sociaux, personne ne nous empêchera de continuer à porter une parole de paix. C'est bien ce qui est lu. Et on voit Gil-William Golnadel qui dit dans un tweet « J'accuse la France insoumise, Mélenchon, Porte, Panot, Hassan, Guiraud et autres Obono d'être responsables du climat de haine qui règne en France. » Rappelons qu'on est 200 jours après le 7 octobre. Alors on parlera dans un instant de Mathilde Panot. Elle a déclaré, elle qui est convoquée donc dans une enquête pour apologie contre le terrorisme, elle a déclaré « C'est la première fois sous la 5e République qu'une présidente d'un groupe d'opposition est convoqué pour un motif aussi grave. » Mathieu Bocoté, ne dites pas tout sur votre chronique, mais peut-être un mot quand même pour commencer.
Je dirais que ce n'est pas la première fois qu'un politique est poursuivi pour ses idées ou pour avoir exprimé certaines opinions. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à des intellectuels, mais c'est quand ça frappe la gauche radicale qui elle-même est à l'origine de tant de poursuites, qui elle-même n'aime rien tant que jouer au tribunal idéologique, alors là ça devient grave. Alors moi je suis de l'école pour qui c'est grave pour tout le monde, mais la gauche ne s'indigne que lorsqu'elle est elle-même censurée.
Charlotte Dornelas, on voit que après l'annulation de deux conférences de Jean-Luc Mélenchon, la convocation pour apologie du terrorisme de Rima Hassan, on a appris donc la convocation de Mathilde Panot. Est-ce que vous comprenez ce contre la censure que crie LFI ce soir ?
Oui, je le comprends très bien, je le comprenais de la même manière et je crois qu'on le comprenait assez globalement ici au moment de la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan de la même manière. Simplement, en effet, il faudrait que ce soit un principe pour tout le monde parce que la France insoumise en particulier à le dégainage de procès extrêmement facile ces dernières années. Ils ont arrosé partout où ils pouvaient, à chaque fois quelque chose leur déplaît. Ils le font pas du tout sur le terrain du débat. D'ailleurs, ils refusent de débattre avec la moitié des gens, voire de parler à certains médias. Et par ailleurs, ils dégainent systématiquement l'arme du tribunal. Donc il faudrait, si cette séquence pouvait leur permettre de revoir leurs principes, ce serait une bonne chose.
Ce qui est intéressant, c'est que Mathilde Panot explique dans le communiqué où elle donne l'information de sa convocation, c'est que c'est une communication officielle de la France insoumise le 7 octobre qui lui vaut aujourd'hui cette convocation et donc ce soupçon d'apologie du terrorisme, une communication officielle. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la ligne du parti qui est mise en cause. Et c'est ça qui va être très intéressant à suivre. Je note au passage que ça va devenir un argument de la campagne des européennes. C'est en substance la tactique de Donald Trump, hein, par exemple.
Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'y ai pensé aujourd'hui.
Oui, mais en prolongation de mes camarades, c'est vrai qu'il y a une sorte d'idée fixe du côté de LFI. C'est-à-dire qu'on est pour la liberté d'expression, mais c'est la liberté d'expression que conditionnelle. La démocratie conditionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes dans leur mouvance, vous dites ce que vous voulez. Vous pouvez. Mais en revanche, après, c'est d'une virulence. Il y a toujours, je dirais, les tisons de la haine dans les mots qui sont prononcés par les uns et les autres. Qu'ils soient offusqués de cela, d'accord, mais il y a une manière de le faire, je dirais, en noblesse, et en envergure intellectuelle, ce qui n'est pas le cas.
Alors Mathieu Bocoté, vous allez nous décortiquer tout ça avec votre édito dans un instant. D'abord, alors que 5 migrants sont morts au large du Pas-de-Calais la nuit dernière, alors que le nombre de migrants ne cesse de grimper au sein de l'Union européenne, le Royaume-Uni a pris une décision importante aujourd'hui, après bien des débats, des hésitations, un avion bloqué, une loi annulée. Le Royaume-Uni vient d'opter pour la stratégie rwandaise, qui consiste, pour le dire simplement, à expulser au Rwanda les migrants qui pénètrent sans en avoir le droit sur son territoire. Question Mathieu, est-ce à dire que le Royaume-Uni s'essaie au refoulement ?
Je crois que oui, à condition de dire que c'est un essai, que c'est une tentative. C'est surtout une volonté d'encadrer de manière un peu sérieuse le droit d'asile. Mais c'est comment faire du refoulement quand on n'a pas le droit de faire du refoulement. Alors, je donne le contexte parce que c'est très important. Il y a une volonté politique d'avoir cette stratégie rwandaise qui consiste, on le dira simplement, à renvoyer au Rwanda ceux qui entrent illégalement en Grande-Bretagne et ensuite on traite leur dossier là-bas. Pourquoi ? Parce que s'ils ont été traités en Grande-Bretagne, c'est trop facile pour eux de se perdre dans la nature. Le fait de s'installer en Grande-Bretagne et de jouer la question du droit d'asile là-bas, ça joue un effet de pompe aspirante. Donc ils disent on va traiter la question très très loin et ça aura un effet dissuasif. Ou non, j'y reviens. Le pouvoir britannique, le pouvoir politique britannique avait voulu déjà faire cela, mais les tribunaux européens comme britanniques, avaient tout fait pour entraver le politique. Et c'est une question sur laquelle on reviendra souvent. Le politique veut quelque chose, mais le régime, la caste, les oligarques qui dissimulent leur pouvoir derrière le vernis de l'état de droit, les oligarques de l'humanitarisme, les oligarques du post-nationalisme avaient bloqué jusqu'à présent le pouvoir politique. Et là, Rishi Sunak dit, la formule est assez forte, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucun tribunal international qui va nous empêcher de prendre les décisions que nous souhaitons prendre dans les circonstances. Prima du politique. Quel est le contexte britannique? Alors, je sais de la formule exacte, aucune cour étrangère ne nous empêchera de faire décoller les avions. C'est assez fort. On a presque l'impression d'entendre du Pasqua et des charters. Ensuite, quel est le contexte britannique? C'est que c'est un débarquement permanent. On pourrait dire que c'est un Lampedusa à petite échelle sur une base constante. Donc, un débarquement. La formule de Mme Braverman, qui est l'ancienne ministre de l'Intérieur en Grande-Bretagne, elle parlait d'une invasion migratoire. Et c'est pas une extrémiste. Hein. Donc, ce terme est même venu à l'esprit d'une figure importante de la classe politique britannique qui parle d'invasion migratoire. Et dès lors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut contenir ces populations qui se déversent sur l'île. Alors, le premier principe, ce serait le refoulement, justement. Vous n'avez pas le droit d'entrer, vous quittez, tout simplement. Mais le refoulement est contraire au principe qui est sacralisé aujourd'hui dans toutes nos sociétés, qui est probablement plus important que tous les autres, c'est la sacralisation, l'absolutisation du droit d'asile. Le droit d'asile écrase tout le reste. Hein. Le droit d'asile, c'est le droit majusculaire qui écrase tous les autres droits, toutes les autres considérations. Donc, on ne peut pas contredire le droit d'asile qui nous oblige à traiter sur une base individuelle les demandes qui se présentent à nous. Parce que le refoulement, ça consiste à dire « Désolé, non, vous ne pouvez pas entrer, c'est terminé. » Le droit d'asile nous oblige à traiter sur une base individuelle. Donc, comment encadrer ce droit d'asile pour qu'il ne soit pas synonyme automatiquement de submersion migratoire? D'autant, il faut bien le dire, que le droit d'asile, c'est pas simplement un principe désincarné. C'est un droit qui est concrétisé à grande échelle par les passeurs, donc les esclavagistes des temps présents, qui s'appuient sur les associations humanitaires, qui font tout pour, dès qu'une personne est rentrée sur notre territoire, font tout pour qu'il n'y soit plus possible de l'expulser, même si elle n'avait pas le droit d'y être. Et c'est soutenu par des communautés d'accueil, d'origine souvent, qui prennent en charge des populations qui arrivent, qui disent, vous ne pouvez plus partir, vous êtes des nôtres ici, vous avez trouvé votre place. Donc, comment encadrer le droit d'asile? C'est une question tout à fait urgente aujourd'hui. Il y a deux grandes options qui se présentent à nous. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler décréter des camps sur le territoire national, donc en France, en Italie, en Grande-Bretagne, qui sont décrétés d'extraterritorialité juridique. Donc, en gros, ce territoire, oui, physiquement en Grande-Bretagne, mais on décrète qu'il n'est pas en Grande-Bretagne, et ça fait en sorte qu'on traite les demandes, et c'est l'idée de camps fermés pour être capable de faire en sorte que les populations ne se déversent pas ensuite dans le pays où elles ont pénétré.
Ça marche pas très bien, ça.
C'est le moins qu'on puisse dire. Appelons ça, c'est la méthodologie Ocean Viking.
Voilà.
Donc là, il y a l'autre méthode, et là, qui est à cet avantage de la géographie. La géographie, ça fait partie des rares choses qui relèvent pas encore du construit social. La géographie, c'est très réel. Des milliers de kilomètres, c'est des milliers de kilomètres.
On va revoir la carte. Pendant que vous parlez, on l'a vu tout à l'heure.
C'est le Rwanda.
On a dit que c'est pas à côté.
Mieux connu, là, c'est loin, c'est très, très loin. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces demandes soient, dès que quelqu'un arrive, on le renvoie au Rwanda, et c'est au Rwanda, donc oui, le trajet d'avion est assez loin quand même. Donc, ils sont renvoyés au Rwanda, et c'est au Rwanda que la demande sera traitée. Et là-bas, on verra qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Est-ce que c'est une stratégie efficace? Chose certaine, elle implique beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources, mais parce que les gens arrivent sans en avoir le droit et ça prend d'immenses moyens pour les renvoyer alors qu'ils n'avaient pas le droit.
Plus ce qu'on paye au Rwanda.
Bien sûr.
340 millions pour 5 ans.
Ça coûte de l'argent, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Donc c'est un État qui accueille, qui fait un business en fait de l'humanitarisme inversé. Mais vous avez ça, ça coûte cher. De l'autre côté, on pourrait dire que c'est aujourd'hui le nouveau visage d'une stratégie de défense. Si on reprend la formule de Braverman, qui nous dit que c'est une invasion, on n'est pas obligé de la reprendre, mais si on la reprend, eh bien, on peut dire que pour se défendre, ce sont des moyens considérables pour refouler de telles populations dans le cadre du respect du droit d'asile qui sera traité, mais à bonne distance, pour éviter que ceux qui arrivent sur le territoire ne le pénètrent, ne s'y installent sans en avoir le droit. La vraie question, c'est surtout de savoir si cette stratégie va être dissuasive. Parce que la fonction de cette stratégie rwandaise, c'est-à-dire vous arrivez, mais ça coûte tellement cher arriver ici. Parce que ça coûte cher quand même migrer comme ça, participer à cette intrusion territoriale, ça coûte cher pour ceux qui veulent le faire. Mais ça vous coûte tellement cher et vous allez tout de suite partir pour le Rwanda que ça ne vaut plus la peine de venir comme ça. Donc là, on est dans une logique de dissuasion forte. Est-ce que ça peut fonctionner? On le verra. Le premier ministre britannique annonce que les premiers avions vont partir dans 12 semaines environ, au mois de juillet. On verra. Cela dit, la loi est votée, mais la contestation juridique continue. Par exemple, devant les tribunaux, ça va se poursuivre, mais aussi les compagnies aériennes qui vont prendre la responsabilité de transformer en charter, eh bien, elles seront critiquées très sévèrement par les instances internationales qui vont dire que globalement, vous êtes complice aujourd'hui de refoulement, vous êtes contre les droits humains. Donc, est-ce que cette stratégie va être applicable dans les circonstances présentes? Ce n'est pas certain. Et de ce point de vue, on voit, puis j'y reviens parce que c'est l'élément central de cette histoire, c'est une tension entre le politique et la démocratie, et de l'autre côté, un ordre juridique qui est idéologiquement très structuré, mais qui se maquille derrière l'État de droit. Est-ce que les peuples vont l'emporter, qui souhaitent la régulation de l'immigration, ou est-ce que les oligarques vont l'emporter? C'est un choix politique légitime.
Faut-il voir dans cette décision du Parlement britannique une remise en question du droit d'asile, tout simplement?
Franchement, vous posez la question très chiant. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on fait tout ce qu'on peut pour le remettre en question? Je dirais, on va jusqu'à dans le paramètre d'une société où les paramètres d'une société où le droit d'asile est sacralisé, on va le plus loin possible, pourrait-on dire. L'ultime étape serait de dire qu'on ne traite que les demandes qui sont faites à l'extérieur, dans les ambassades lointaines, mais dans les circonstances, c'est un geste fort. Mais le vrai refoulement, s'il y avait du vrai, en fait, il faudrait une forme de révolution juridique pour retourner vers le refoulement. Le refoulement, ça consiste à désindividualiser la migration massive. C'est-à-dire, nous sommes devant des masses et on ne peut pas traiter chaque cas sur le mode individuel. Le droit d'asile n'a pas été inventé pour les masses que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes prisonniers d'un ordre juridique qui ne correspond plus aux réalités de notre temps. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, le refoulement? Ben, ça peut être, par exemple, en Méditerranée, ramener les bateaux dans leur port d'origine, pour ceux qui le souhaiteraient. Pour ceux qui arrivent par avion, on le voit surtout en Amérique du Nord, mais c'est le retour immédiat de ceux qui arrivent sans en avoir le droit. Où on a vu de manière plus brutale en Pologne, il y a 2 ans, 3 ans. C'est pas nécessaire, je ne plaide pas pour cela. Je constate que des méthodes existent néanmoins. Cela dit, sur le fond des choses, la question c'est dans quel état nos États sont prêts, dans quel moyen, dis-je, nos États sont prêts à rompre avec ces conventions internationales, dans quelle mesure sont-ils prêts à les dénoncer, ces conventions qui n'ont cessé d'étendre leur pouvoir, qui n'ont cessé d'étendre leur capacité à paralyser les souverainetés nationales. Qui voudrait aujourd'hui rompre ou dénoncer ou relativiser l'emprise de ces conventions qu'on nomme droit international et qui est une forme de droit théologique, de droit révélé, de droit naturel qui aujourd'hui surplombe la souveraineté démocratique? Ça reste à voir, mais le refoulement de ce point de vue, on essaie, donc je reviens sur ça, on essaie avec cette politique de pousser le plus loin possible le refoulement dans un paradigme anti-refoulement. De ce point de vue, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on parlait de la querelle entre Reconquête et le RN dans l'Union européenne. On peut dire que et le RN et Reconquête cherchent à pratiquer à leur manière le refoulement dans les paramètres d'une société qu'ils refusent. Ayons ça à l'esprit, c'est une question de méthode, pas de principe.
Non, mais question, est-ce que le Royaume-Uni, subsidiaire, hein? Répondez-moi, parce que j'ai beaucoup de questions encore, mais est-ce que le Royaume-Uni aurait réussi une telle opération, pour l'instant, hein, sur le papier, si elle était au sein de l'Union européenne?
Ah, je ne crois pas. Ça, je pense qu'il faut le noter. Mais même si vous êtes dans l'Union européenne, vous pouvez décider de le faire.
Ah bon?
Ça, j'en suis convaincu. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut avoir.
C'est plus compliqué.
Je crois le contraire. Mais qui a de la volonté politique et qui ne fait pas des salamalecs devant tous les textes de l'Union européenne peut soudainement se découvrir une capacité d'action qu'il s'interdit pour l'instant. Il y a beaucoup d'auto-interdictions dans la paralysie des États européens.
Très intéressant, en tout cas, de voir l'évolution du Royaume-Uni sur ces questions, avec notamment ce Premier ministre Rishi Sunak. Bon, autre question. La maîtrise de l'immigration est-elle contraire à l'état de droit? Mathieu Bocoté, c'est Laurent Fabius qui l'a indiqué sur une autre chaîne, et ça vous a interpellé.
Oui, et tout est en lien, hein, de ce point
oui,
de vue.
Oui, on est toujours dans le même sujet.
Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Je pense que c'était dimanche sur une autre chaîne spécialisée sur les affaires internationales à l'est de l'Europe, qui et Laurent Fabius, on lui demande, bon, le référendum sur l'immigration dont tout le monde parle, est-ce qu'on peut le faire? Il nous explique « ce n'est pas possible ». Ce n'est pas possible, ce n'est pas légitime. Le droit, les juristes ne le veulent pas, ne l'autorisent pas. Donc, ce que dit Laurent Fabius, c'est assez intéressant. Il nous dit « vous n'avez pas le droit, dans les paramètres constitutionnels actuels, de réguler l'immigration autrement ». Et là, l'animateur, le présentateur, lui demande, d'accord, mais parce que l'immigration, ça touche aussi les questions socio-économiques. Est-ce qu'il y a un lien? Il dit non. Les juristes qu'on a consultés, les théologiens, les docteurs en théologie de l'Église nouvelle, nous disent oui, exactement.
Donc, on m'a pas vu. J'ai fait ça. Hein,
les juristes considèrent que non, donc on le fera pas. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans cette scène absolument fascinante? C'est que Laurent Fabius explique que la démocratie, il s'en fout. La démocratie, la souveraineté populaire, elle est dangereuse. Donc, rappelez-vous, au moment de la présidentielle, il avait dit qu'il n'hésiterait pas, lui, à faire barrage si Zemmour l'emportait à ce moment-là. Au nom de l'État de droit, il ferait barrage au référendum sur l'immigration. Donc, on constate que tout le régime, en ce moment, décide de se braquer contre la possibilité d'un référendum sur lequel la majorité des Français est particulièrement... Elle est rassemblée, elle souhaite ce référendum, elle veut le fixer dans une telle direction, et les élites sont sur le mode « faisons barrage à tout prix contre la possibilité d'un tel référendum ». C'est intéressant. L'animateur lui dit, vous savez, De Gaulle s'est quand même permis un référendum sur, au moment de l'élection du président de suffrage universel, qui n'était pas exactement prévu dans la Constitution. Et là, on voit Fabius faire du patinage de fantaisie en disant « oui, bon, c'était De Gaulle, mais ça compte pas, finalement, tout ce qui compte, c'est le droit ». Question d'animateur, oui, mais il y a un précédent. Et là, il termine le patinage de fantaisie et c'est pas très convaincant. Ce qui est certain, c'est que partout en Occident, entre le droit, qui n'est rien d'autre qu'une politique dissimulée, et la politique démocratique, le conflit est ouvert autour de la question de l'immigration massive.
J'ai une question subsidiaire, mais...
Allez-y.
Non, mais... Vous êtes prêts? Alors, attendez. Moi, j'ai vu, par exemple, que pour les Européennes, la LDH et Utopia 56 portent plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre le numéro 3 de la liste RN, j'ai nommé Fabrice Leggeri, qui est donc visé pour cette plainte. Qu'est-ce que cela vous évoque, Mathieu Bocoté? On est justement dans le cadre, on vient d'analyser le Royaume-Uni, la façon dont il se comporte, et lui ont reproché d'avoir un peu laissé mourir des migrants.
Moi, de telles accusations, je les trouve moralement atroces, absolument scandaleuses. On appelle ça des associations qui cherchent à rendre impossibles les décisions politiques en matière d'immigration, en criminalisant, en pénalisant, en culpabilisant les politiques qui cherchent à contenir des flux migratoires. C'est une technique de censure bien connue, c'est une technique d'intimidation dans le débat public, c'est une technique pour être capable de faire taire ceux qui osent sortir du logiciel de pensée dominant. Je ne suis pas surpris, encore une fois, que ce soit ces deux associations qui se permettent de faire cela. La Ligue des droits de l'homme, si elle défendait les droits de l'homme, ça se saurait. Et pour ce qui est des immigrationnistes enragés d'Utopia, je ne suis pas surpris. Pour eux, ils voudraient abolir la patrie pour transformer la planète, finalement, en hôtel humanitaire qu'ils pourraient gérer.
Je sais comment énerver Mathieu Bocoté.
Je vous l'accorde.
Bon, voilà, on a appris ça aujourd'hui, donc je voulais vous entendre un peu là-dessus. Oh, dans un instant, Mathilde Panot, on revient avec vous. Dimitri, alors, une actualité qui passe sous les radars. On a voulu faire un petit pas de côté ce soir et parler des actes antichrétiens. Le mois dernier, le ministère de l'Intérieur publiait des chiffres pour l'année 2023. Et j'adore quand vous décortiquez avec votre sens de la pédagogie. Les autorités ont recensé près de 1000 actes antichrétiens dans le pays et 90% sont des atteintes dans les cimetières, contre les cimetières ou les églises. Dimitri, que nous disent ces chiffres ?
Ils nous disent qu'en moyenne, chaque jour en France, vous avez 2 à 3 édifices religieux qui sont attaqués, donc avec des dégradations différentes, hein, bien sûr, et que tous les 3-4 jours, vous avez une personne qui est frappée, qui est insultée, qui est menacée pour sa foi chrétienne. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est très platement ce qu'expriment ces chiffres.
C'est énorme.
Voilà, et
c'est
des chiffres qui, je le signale, ne sont que l'addition des faits signalés, portés à la connaissance des autorités, donc la police, la justice, etc., etc., pour lesquels il y a une plainte déposée. Donc il y a une trace qui remonte au ministère de l'Intérieur. On n'est pas dans ce qu'on appelle les enquêtes de victimation. C'est les enquêtes de victimation, alors, en l'occurrence, là, sur les faits antichrétiens, ça consisterait à aller à la sortie de chaque messe et de demander à chaque fidèle, est-ce que dans l'année, vous avez été à un moment agressé, interpellé, violenté pour votre foi, pour votre foi chrétienne. Ça consisterait à aller recenser l'intégralité du patrimoine religieux dans le pays, donc la moindre chapelle, la moindre église, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, plus personne ne s'y rend, et de regarder s'il y a eu profanation, s'il y a eu un tag, si la porte a été forcée, si à l'intérieur du mobilier religieux a été attaqué. Voilà. Et là, je pense qu'on aurait une photo considérablement plus large que ce chiffre qui vient rond de à peu près 1000 faits antichrétiens en France sur l'année 2023. Mais en fait, ce que dit aussi ce chiffre, qui est très intéressant, et je le développerai dans un instant, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt particulier des autorités françaises pour la question de la haine antichrétienne, et je vous le montre dans un instant.
Non, mais c'est là où on veut en venir, et sur cette invisibilisation. On en parle dans un instant, on marque une pause. Pendant la pause, hashtag face à l'info, comme c'est la journée mondiale du livre, dites-nous quel livre vous lisez en ce moment, puisque c'est la question que je posais aux mousquetaires, mais ils ne le savent pas, dans un instant. Alors Dimitri, dans un instant, on fait un tour de table pour savoir qui dit quoi en ce moment. Ils ont travaillé pendant la pub. Hashtag face à l'info, dites-nous ce que vous lisez aussi. Vous disiez que les autorités ne s'intéressent pas vraiment aux actes antichrétiens. Pourquoi ?
Et je dirais même à la haine antichrétienne. Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est cette haine qui se cache derrière ces actes antichrétiens. Oui, oui, je pense qu'il y a un brouillard statistique sur la question. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait eu, les autorités nous disent, 1000 actes antichrétiens. Enfin, un petit peu moins de 1000 actes antichrétiens l'année dernière, en 2023. Alors, figurez-vous que ce chiffre ne figure même pas dans le rapport du service statistique du ministère de l'Intérieur sur les crimes ou délits à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux. C'est le rapport qui, annuellement, à la fin du mois de mars, compile l'ensemble des faits relatifs à ces différents points. Je vous ai dit, les crimes et délits à caractère raciste, xénophobe, et ou anti-religieux. Alors, ce rapport, là, en l'occurrence, je l'ai lu cet après-midi, se passionne pour les actes racistes. Mais vraiment, il se passionne, c'est-à-dire que vous avez le détail pour chaque catégorie, chaque type d'acte, donc que ce soit les injures, les violences racistes, les discriminations racistes, les menaces racistes, etc. Bon, je distingue pas nécessairement la différence moi-même entre ces différentes catégories, mais enfin, vous voyez, des gens qui frappent ou des gens qui crient, voilà, évidemment, vous avez des différentes catégories. Et puis en bas, vous avez une case, un peu fourre-tout, des, je cite, « crimes et délits commis en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la prétendue race ou religion », sans plus de détails. Alors, où est ce chiffre des 1000 actes antichrétiens ? Eh bien, en fait, c'est Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui, quelques jours après la publication de ce fameux rapport, est invitée dans la matinale de RCF, la radio chrétienne RCF, et elle donne ce chiffre, elle dit un peu moins de 1000 actes antichrétiens. Donc vous avez dit presque 1000. Elle dit un petit peu moins, elle minore. Vous voyez, c'est pas si grave que ça, quoi, 1000 actes antichrétiens dans le pays.
2 à 3 par jour.
Qu'est-ce que c'est à l'échelle d'une nation de 70 millions d'habitants, de 100 000 églises, etc. Vous voyez, c'est un petit peu ça le message subliminal. Et je note au passage, alors d'ailleurs, j'ai dit les actes antichrétiens ne sont pas tellement, ne sont plus officiellement statés. Mais les actes anti-sémites et les actes anti-musulmans également. Tout ça est fondu dans une seule et même catégorie, un peu floue, un peu fourre-tout. Voilà. Et c'est la deuxième année que nous n'avons plus le détail de ces faits anti-chrétiens, anti-musulmans, anti-sémites. On les avait jusqu'à l'année 2021. À partir de 2022, ça disparaît. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps cet après-midi d'en trouver la raison.
Quand même. Alors on parle de quoi exactement, Dimitri, lorsqu'on dit des faits anti-chrétiens ?
Voilà. Bah, on parle des cimetières tagués, on parle des calvaires dégradés, on parle des vols, de la casse, des tentatives d'incendie dans les églises, on parle des vitraux brisés, etc. On parle des prêtres frappés, on parle des religieuses poursuivies dans la rue, etc. Tout ça, ce sont les faits anti-chrétiens. Alors, quelques exemples que j'ai relevé dans la presse ces derniers mois, et après on commente. Mais le plus spectaculaire, c'était en Dordogne, où il y a eu, alors là on peut parler d'une campagne de profanation qui a duré des mois, dans et autour ce petit village de Clermont-d'Excideuil, vous avez les images à l'écran, vous voyez, hein, ça si c'est pas de la profanation, je m'y connais pas. Donc sur des tombes, une cinquantaine de tombes, au mois de mars, on retrouve des inscriptions telles que « La France est déjà à Allah », Aïssa brisera la croix. Aïssa, je précise que c'est le nom coranique de Jésus. Ou encore, soumettez-vous à l'islam. Donc là, c'est signé furax quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la haine anti-religieuse, on est dans la persécution religieuse. Je pense qu'il faut qualifier les faits, c'est un peu plus clair. Fin février, en un week-end en Normandie, vous avez deux églises qui sont cambriolées, où là, alors le calice, une croix est dérobée. Dans l'une d'elles, on va jusqu'à voler le Saint-Sacrement. Donc le Saint-Sacrement, pour ceux qui ne vont jamais à la messe, vous savez, c'est le pain et le vin consacrés dans l'Eucharistie, qu'on conserve dans cette petite armoire qu'on appelle le tabernacle. On parle d'outrages graves à des objets sacrés, hein, voyez. Donc voilà, on a des actes de vandalisme, des actes de vol. À Angers, il y a pratiquement un an pile, l'église Sainte-Madeleine, où là, un Christ avait été décapité, les bras lui avaient été arrachés, le visage de la Vierge Marie lacéré de coups de couteau, l'autel saccagé, etc. Alors, vous allez vous dire, oui, mais là, c'est que du matériel, finalement. C'est pas bien grave, c'est de la casse, hein, c'est de la délinquance. Eh bien, c'est ça qui est frappant. C'est que le commentaire, à chaque fois, ou presque, sur ces actes antichrétiens, il est le même. C'est pas de la christianophobie, non, non. C'est de la délinquance. Ou alors, on vous dit, ce sont des déséquilibrés. Et effectivement, c'est vrai, vous avez souvent des gens, des déséquilibrés, qui vont dans les églises. Pourquoi ? Parce que dans l'espace public, il n'y a que là, finalement, qu'on les accueille encore. Et il y a une histoire d'ailleurs de deux religieuses à Bordeaux qui ont fini par fuir le quartier où elles officiaient. Pourquoi ? Parce que dans l'église où elles se trouvaient, elles avaient affaire à toute cette misère du monde finalement qui se déversait sur elles et elles ont préféré partir de guerre lasse finalement, de guerre lasse. Hein, voilà. Je voulais dire que la presse parle ainsi, dans la négation de la christianophobie, en tout cas sa minoration, son atténuement. La presse parle ainsi, les pouvoirs publics, je vous l'ai montré, parlaient ainsi, et même, je vais vous dire, les chrétiens. Les curés des églises profanées, la plupart du temps, quand on leur tend le micro, le lendemain, dans le journal télévisé, dans la presse écrite, qu'est-ce qu'ils vous disent tous ? Pareil, il n'y a pas de christianophobie derrière tout ça. Une croix jetée à terre, qu'est-ce que c'est ? C'est pas anti-religieux. Vous voyez ? Donc, je reviens un instant sur les chiffres du ministère, ceux dont je vous parlais tout à l'heure. Dans les journaux qui en ont parlé, j'ai presque lu partout le même commentaire, à savoir que les faits racistes sont, ouvrez les guillemets, généralement sous-évalués, alors que les faits antichrétiens sont, entre guillemets, à nuancer. Je vous assure que dans pratiquement tous les journaux, j'ai retrouvé ces deux expressions.
Excellente analyse. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Dimitri, que l'Église est touchée par le pas de vague ?
Il y a un peu de ça. Alors je pense qu'il y a autre chose aussi, mais il y a un peu de ça. Une petite histoire d'abord. Début février en Charente, encore une histoire de profanation. L'Église Saint-Jean-Baptiste de la Couronne, vous avez un homme qui entre, qui brise la statue de Saint-Jean-Baptiste en utilisant un crucifix. Vous voyez, il prend un objet religieux pour en détruire un autre. Le prêtre arrive. Et là, le vandale lui répond « Les statues sont satanistes, j'agis au nom d'Allah, une fois de plus. » Il est embarqué par la police. Et à peine sorti du commissariat, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne au presbytère, il sonne pour voir le prêtre. Le prêtre ne lui ouvre pas parce qu'il sent que le type est quand même pas clair. Et il rappelle la police. Et là, le parquet va conclure qu'aucun élément ne permet d'établir une potentielle radicalisation islamiste. Alors, je veux bien, mais enfin, quand même, une fois de plus, ça ressemble à une persécution religieuse. Alors, voyez-vous, en fait, le problème est, dans cette histoire-là précise de la Charentaise, c'est que la victime, en fait, n'est pas la bonne. La victime n'est pas la bonne. Le chrétien, le prêtre, lui, il n'a pas le droit à ce statut enviable de la victime qui lui susciterait normalement l'attention, la sympathie de tous. Si c'était une mosquée qu'on avait attaquée dans le sens, peut-être y aurait-il eu droit. Peut-être que là, certains se seraient levés et hurlés à l'islamophobie. Mais voyez, les chrétiens ont tellement intégré cette idée qu'ils n'étaient pas les bonnes victimes, qu'on ne les entend même plus hurler, même plus se débattre, même plus simplement constater les faits, que quand il y a des faits de christianophobie dans leur église, eh bien c'est de la christianophobie. On en est rendu là. Et tout se passe aussi comme si dans l'ensemble de la société, on ne reconnaissait même plus dans la majorité des actes antichrétiens les offenses qui sont faites à la foi. Hein ? Parce qu'un vol de reliques, une croix renversée, une croix retournée, forcer un tabernacle, enfin, c'est pas que du vandalisme. Je vous l'ai dit, c'est une profanation. Une église, c'est pas quatre murs et un toit, c'est une enceinte sacrée. C'est d'ailleurs pour cela qu'après une profanation, il y a une messe de restauration du sacré. Et alors, on reconnaît tout au plus l'atteinte au patrimoine dans ces affaires-là. Oh, la jolie porte a été détruite, il va falloir la restaurer. Mais est-ce qu'il faut s'en étonner, finalement, qu'on ait un tel appauvrissement de notre regard sur ces faits-là, quand on voit qu'on s'indigne même plus de la conversion d'une église en un lieu de fête, en un lieu de concert. On rend ces bâtiments religieux, qui sont des bâtiments consacrés, on les recycle quelque part dans la société civile. Imagine-t-on un instant une mosquée subir ce sort-là, sans qu'aucun musulman ne s'indigne. Je vous laisse répondre à la question.
Merci beaucoup, Dimitri, de vous être penché sur cette invisibilisation. C'est la journée mondiale du livre aujourd'hui. Avant votre chronique, un petit tour de table. Charlotte Dornelas, qu'est-ce que vous lisez en ce moment à part Alice ?
À part Alice.
Quelle merveille !
J'ai fini depuis quelques années de lire Alice. Mais oui. Je le conseille à tous nos jeunes téléspectateurs.
Oui,
je suis en train de lire Les dernières rêveries d'Akkad, qui est écrit par Édouard Bureau. Un jeune garçon, j'avais lu dans le JDD une très bonne critique, donc je suis en train de le lire, c'est en gros sur la décadence de l'Empire sumérien. Alors ça nous ramène très très loin dans mes cours d'histoire, mais c'est exceptionnel, c'est vraiment un livre génial.
Je termine le deuxième tome de « Si tu vois mon pays » de Joseph Facal, qui est un ancien homme politique qui est devenu écrivain québécois, et qui est un roman historique consacré à la résistance du peuple québécois à travers l'histoire. Enfin, j'en lis plusieurs en ce moment, mais j'avais le plaisir de vous dire celui-là.
Alors, j'expliquais dans ma chronique du JDD que Mathieu Bocoté, il a un problème. Il lit 8 heures par jour.
Oui.
Il lit plusieurs livres en même temps. Bon, on n'arrive pas à vous suivre, mais...
Mais c'est pas un problème, c'est un talent, ça.
Non, mais je rigole,
c'est
bien
sûr. C'est un super pouvoir.
Dimitri,
on a changé de sport, lui.
Oui, voilà.
Et vous, Dimitri.
Moi, je lis Gaspard, Melchior et Balthazar de Michel Tournier, qui raconte l'histoire de Gaspard, Melchior et Balthazar, les rois mages.
Voilà. Et vous, mon Marc ?
Batou Allah de René Maron, le premier noir en 1921 à avoir obtenu le prix Goncourt. C'est d'une écriture avec une envolée. On est à la fois dans l'idéalisme républicain, les idées des Lumières, dont il est imprégné, lui, en tant que noir, et puis il voit ce qui se passe pour la colonisation, les petits administrateurs qui deviennent de véritables terreurs. Et puis d'un autre côté, il nous fait découvrir la perception des autochtones. C'est magnifique, c'est gigantesque, c'est à méditer dans le contexte actuel.
Alors, que lisent les téléspectateurs de Face à l'info en ce moment ? Gilles Kepel, prophète en son pays, les cahiers d'Oléron, je lis rapidement, Karl Marx, Le Capital, Mille femmes blanches, Au secours des chrétiens d'Orient, La révolution racialiste, je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ça.
Remarquable.
Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière, il y en a qui lisent mon livre aussi, bon voilà, L'inquiétante histoire des vaccins ou bien La liberté sans expression. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous ce que vous lisez. Avec vous, Marc Menon, on va essayer de comprendre un peu quelles solutions pour l'éducation, l'internat, le livre, l'écriture. On a vu par exemple qu'hier encore, à la fois Gabriel Attal était sur le terrain pour prôner l'internat dans l'éducation, et hier aussi l'INSEE parlait de comment déclarer comment un adulte sur 10 n'arrive pas à écrire convenablement le français.
Oui, mais alors on pourrait dire c'est une statistique, c'est pas si grave que ça. On peut très bien cheminer sans posséder cette force des mots. Mais le bougre de Mathieu Bock-Côté, s'il est aussi brillant, c'est grâce aux mots.
Et oui.
Sans les mots, on n'est rien. Sans les mots, on est au mieux un mâchouilleur. Quelqu'un qui répète ce qui est plus ou moins en suspension dans les bistrots. Alors on a entendu ça, ça vous paraît joli. Pof ! On tente de faire le malin et on lance ça à ceux qui sont autour de vous. Mais qu'y a-t-il dans votre crâne? Rien. Le grand drame, c'est que sans les mots, nous n'existons pas, nous ne pouvons pas nous réaliser. Sans les mots, on est englué dans l'esprit, on est encalminé. Il y a quelque chose, un bouillonnement qui ne peut pas se faire. C'est-à-dire que vous savez que vous aimeriez dire quelque chose, mais quoi? Comment? Vous n'avez pas les éléments qui valent la possibilité de d'esquisser la pensée et ensuite de la développer. C'est le grand drame de l'époque, c'est-à-dire que dans les sondages, il y en a un dans le Figaro, on nous dit que les jeunes de 12 à 19 ans passent 5h30 par jour sur Internet. Maximum 35 minutes à lire et ce sont les livres de l'école. Mais ce ne sont pas ces livres-là qui vous emportent, pardon de dire cela. Il faut s'accaparer les mots. Il faut être conscient que sont les créatures qui nous valent d'être des êtres humains, des êtres pensants, des êtres de raison, des êtres qui possèdent leur libre arbitre. Sans les mots, il n'y a pas de liberté. Car on ne sait même pas ce que peut être la liberté puisqu'on ne pourrait pas la défendre. Il n'y a pas de liberté sans justification de ce que l'on formule, de ce que l'on pense. Et comment penser ? Sans mots. Vous rendez compte de cette équation terrifiante. Avec des gamins, aujourd'hui, on dit à peu près, là encore dans les sondages, 60% qui en sixième sont balbutiants. Ils n'arrivent pas à déchiffrer quoi que ce soit. Et les mots, c'est pas voir le prix de je ne sais trop quel produit, de dire ah tiens, il y a écrit short ou je ne sais trop quoi. Non. Les mots, c'est cet enflammement. Les mots, c'est l'enthousiasme. Les mots, ce sont les tisons de la pensée. Et une fois qu'on a ces mots, eh bien ces tisons, on peut, avec le souffle, leur donner cette envergure, cette émancipation et avoir la réalisation de soi. Il faut donc, à tout gamin, offrir un mot et à côté, lui donner eh bien, le carnet du chasseur. Pourquoi le carnet du chasseur ? Parce que les mots, il faut les traquer. Il faut les débusquer. Alors vous êtes là au départ, c'est pas facile. Et puis, ils vous apparaissent. Et là, vous les notez sur votre petit cahier de vocabulaire. C'est votre gypsière. Et ils sont là. Et chaque jour, vous allez les visiter.
Je peux vous taquiner ?
Oui.
Je pense que ceux qui nous regardent, ils sont convaincus par ce que vous dites. Non, convaincus par ce que vous dites. Oui. Comment aller plus loin, c'est-à-dire prendre un enfant qui est en dehors justement de ce système, dans ce monde de la lecture, et le ramener à la lecture, le ramener à l'éducation.
J'allais y arriver.
Ah, pardon.
Non, mais votre question, elle est excellente. C'est-à-dire déjà, il faudrait au quotidien, la prière du matin dans l'école publique devrait être
Attention.
Pas de blasphème.
La lecture d'une poésie pour montrer aux enfants comment c'est beau, comment il y a de la musique, et les encourager à voir cette petite gypsière dans laquelle ils placeraient ces mots. Et de leur dire, soyez conscients, si vous voulez pouvoir rayonner, séduire votre camarade et échapper à ce bouillonnement qui vous rend violent. Parce que sans les mots, il se passe quoi? Vous êtes tellement là dans cette incapacité à exprimer ce qui est en vous sans pouvoir le formuler qu'il n'y a que les poings, il n'y a que la haine. Et c'est ça dont il s'agit. Et tout enseignant devrait mettre en conscience les enfants par rapport à cette nécessité. Donc déjà, il faudrait à l'école la poésie et lire à voix haute, car c'est une musique, c'est le Gueuloir de Flaubert, et sans ça, vous ne comprenez pas cette subtilité. Et alors, il nous faut parler des internats de M. Attal. J'applaudis, oui, il ne faut pas les laisser paumer comme ça, il ne faut pas les laisser sans les munitions de l'esprit, les laisser sans les mots, les laisser sans livres. Mais il faudrait donc, dans ces internats, il y a le premier. Créer cette ambiance des cercles disparus. Ça se joue actuellement au théâtre à Paris. Sinon, vous
au
avez
théâtre,
le film.
Au théâtre Antoine. Voilà. À 21h.
Voilà. Allez voir le cercle des poètes disparus. Projetez-le. Aujourd'hui, puisqu'il y a la streaming ou je ne sais trop quoi. Bon. Quel mot affreux, streaming.
Non, mais le théâtre en streaming. Mais je non, vous en prie. Mais... Vous, il parle des mots, il parle de streaming. Non, non, restez connectés avec le réel.
Voilà. Non, mais, le théâtre. Mais, c'est de montrer ce qu'il y a comme magie pour faire de tout à chacun un individu en pleine conscience, en pleine responsabilité, en pleine liberté, en pleine fraternité. Il y a comme ça qu'un jour, on comprendra peut-être ce que veut dire laïcité.
Charlotte, une réplique?
Non, non, les mots sont importants. Là-dessus, ça, nous sommes d'accord.
Merci beaucoup, Marc Menant, pour ce regard. Donc, journée mondiale du livre. Profitez pour acheter un livre. Alors, Charlotte Donnelas, il y a quelques jours...
Pour le lire, surtout.
Oui. Oui, oui, c'est vrai.
L'acheter ne suffit pas.
Non, c'est vrai. Et que ce soit
pas... Il y a une différence entre acheter et lire.
Voilà.
J'achète souvent.
Mais c'est comme... Non, mais c'est comme l'effort physique. Il faut se trouver la petite motivation, se dire, c'est là que je me gagne, que je me gagne.
Oui, en se disant, par exemple, on lit un chapitre par jour, progressivement.
Oui, mais même trois lignes.
Alors, je vais lire trois lignes, là. Il y a quelques jours...
Pas confondre les lignes.
Charlotte Donnelas, on va passer à un sujet qui nous intéresse beaucoup. Ça fait déjà 2-3 jours qu'on a envie d'en parler. C'est le site Coco, l'application Coco, le centre, la messagerie. Il y a quelques jours, Philippe Mouret, après avoir été attiré dans un guet-apens via cette application Coco, c'était à Grande-Synthe, il y a une semaine. Aujourd'hui, 4 personnes ont été interpellées à quelques kilomètres pour d'autres guet-apens avec le même mode opératoire. De quoi s'agit-il exactement? Et dans un instant, je demanderai comment ça se fait qu'un site aussi violent, aussi avec autant d'horreur, puisse exister encore en France.
Bonne question. Seule question à la fin. Non, on a la procureure de Dunkerque qui a fait une conférence de presse à la suite de la mort de Philippe il y a quelques jours à Grande-Synthe et qui expliquait elle-même que le mode opératoire raconté évidemment par les mises en cause, puisque la victime étant décédée, il n'avait pas la version évidemment de la victime, mais les mises en cause ont expliqué qu'ils avaient pris rendez-vous avec lui sur ce site. Alors elle a qualifié de manière assez sobre ce site de rencontre, ce qu'il était initialement. Il est présenté comme le premier chat de France. Il s'appelle Coco, elle l'appelle Cocoland, c'est le nom officiel. Il s'appelle Coco. Alors le propriétaire, initialement c'est français, le propriétaire il serait varois, ça a été assez mystérieux. C'est la propriété d'une entreprise qui est en Bulgarie, c'est hébergé dans les îles de Guernesey. Ça pour vous expliquer qu'avant de l'attraper, c'est compliqué. Et ça n'est pas rien, évidemment, par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'on voit, ce que les autorités françaises voient, parce que c'est au cœur de beaucoup, beaucoup d'affaires policières et judiciaires. Ça revient en permanence. Et c'est un site qui est objectivement un repère d'horreur en tout genre, de prédateurs sexuels, de prédateurs crapuleux hein, pour de l'argent, qui donnent des rendez-vous pour de l'argent, violents, pédophiles, violeurs, homophobes, on l'a vu, parce que certaines équipées donnent rendez-vous sur ce site-là pour aller tabasser des gens donc dans des rencontres homosexuelles. On a eu des affaires de trafic de drogue, de trafic d'armes sur ce site également. Et c'est un site qui est connu de beaucoup de policiers qui appartiennent aux brigades des mineurs comme un site de prostitution de mineurs qui donc proposent leurs services en échange d'argent à n'importe quel inconnu voudra bien leur donner rendez-vous. Donc c'est un site qui est objectivement extrêmement connu de policiers qui m'ont immédiatement dit site de rencontre, non. Enfin, alors évidemment, les policiers voient toujours l'aspect extrêmement négatif des choses. Mais là, en l'occurrence, je me suis inscrite sur. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. En fait, vous rentrez. D'ailleurs, on a vu la page d'accueil dans le sommaire. Vous mettez un pseudo, vous déclarez votre âge, point barre, vous mettez un code postal que vous pouvez évidemment inventer et vous entrez sur le site. Et si par hasard vous mettez que vous avez 16 ans, vous avez une fenêtre qui apparaît en disant j'ai bien moins de 18 ans, vous cliquez, c'est terminé. Donc c'est vous dire l'effort est assez. Voilà. Et là, vous arrivez. Donc vous voyez, ce qu'il faut remplir, c'est terminé. Vous pouvez, il n'y a aucune vérification, il n'y a même pas une adresse mail pour remonter. Donc il n'y a absolument ni inscription, ni identification possible. Et par ailleurs, les conversations ne sont gardées que quelques heures. Donc il n'y a pas, même vous n'avez pas l'historique de vos conversations. Et vous entrez là-dessus. Donc je l'ai fait pour voir, avec plusieurs profils différents, pour voir ce qui se passait. Immédiatement, vous avez beaucoup d'inconnus qui viennent vous parler. Et en tout cas, moi, l'intégralité des messages que j'ai eus, j'ai fait un profil en signifiant dans le pseudo que j'avais 15 ans. Et immédiatement, vous n'avez que des messages à caractère sexuel. Immédiatement, on vous propose de l'argent contre 1000 choses que je ne détaillerai pas ici, parce que moi-même, au bout de 10 minutes, j'avais envie de vomir. En fait, j'ai éteint le truc et je me suis dit, c'est terminé. Et par ailleurs, sur cette application, vous avez des salons de discussion. Hein, c'est très joli, un salon de discussion. Les mots ne font pas tout, c'est en l'occurrence. Et alors là, vous avez plusieurs thèmes. Vous pouvez demander à entrer dans ces salons de discussion. Et alors là, c'est un concours des thèmes les plus glauques possibles et imaginables. On avait évoqué ça, notamment sur certains site sur le dark web de pornographie. Bon, bah là, c'est la même chose avec des vrais gens qui mettent des vidéos de des gens qui les entourent, pourquoi pas. Et c'est un site qui il a été créé en 2003. Il a immédiatement été connu pour des problèmes de ce genre depuis 2003. Il y en a eu. Et vous avez à peu près 500 000 visiteurs uniques par mois en moyenne. Donc, c'est quand même un site qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et qui se revendique aujourd'hui d'être le premier chat gratuit de France. Donc même si les gens qui nous écoutent ne connaissent pas ce site, sachez qu'il est extrêmement accessible et il est utilisé énormément.
Concrètement, comment s'y prennent ces prédateurs pour agir et agresser autant de personnes en France?
Alors, ils sont souvent jeunes, ces agresseurs. Les agresseurs, là, on parle de la partie guet-apens, donc pas des prédateurs qui vont chercher leur proie sur ce site-là. Mais dans l'affaire de Philippe Kopmann, là, à Grande-Synthe, ce sont 3 mineurs et un majeur qui ont été interpellés, et dont un des mineurs, vous savez, qui avait été agressé la nuit d'après. Il était recherché par la police, et finalement, il a été placé en garde à vue parce qu'il est mis en cause dans cette affaire. Leur version à eux, encore une fois, nous n'avons que la leur, qui a été relayée d'ailleurs par le procureur. Ils se sont fait passer pour une jeune fille mineurs. En général, ils se font passer pour des jeunes filles de 16, 17, 18 ans et ils donnent rendez-vous à des hommes majeurs. En l'occurrence, Philippe Kopmann avait 22 ans, donc aux yeux de la loi, c'était pas... Voilà, mais parfois, ils ont beaucoup plus. Et ils mettent en place ce qu'ils appellent eux-mêmes, et les policiers me disaient, il y a plusieurs équipés à peu près partout en France, ce qu'ils appellent la chasse aux pédos, chasse aux pédophiles. Donc, ils se font passer pour une jeune fille, ils donnent rendez-vous, ils tabassent les personnes qui arrivent, et en plus, comme la plupart du temps, en l'occurrence dans ces cas-là, ce sont des relations tarifées. Ils volent l'argent, voire la carte bleue, en allant retirer de l'argent ou en payant avec leur téléphone portable. Et par ailleurs, ce matin, vous évoquiez à Saint-Paul-sur-Mer, c'est à quelques kilomètres de Grande-Synthe, hein, c'est la même police, la même justice en l'occurrence qui s'occupe. Ils ont fait tomber une deuxième équipe locale, donc, qui agit depuis décembre dernier et qui, elle, s'attaquait à des homosexuels. Alors là, le procédé, vous faites passer pour un homme, vous donnez rendez-vous à un homosexuel pour une rencontre dans la vraie vie. Et pareil, vous le tabassez, vous volez son argent, sa carte bleue. Là, en l'occurrence, la dernière histoire, c'était carte bleue. Ils sont capables de venir, la première équipée là, de Philippe Kopmann, ils avaient fait plusieurs victimes avant lui qui n'étaient pas mortes. Et c'est pour ça qu'on n'en avait pas parlé. L'avant-dernier, il s'était fait attaquer avec des haches quand même. Et des haches et des machettes. Hein, je veux dire, ils rigolent pas du tout. Ils sont mineurs. Hein. En l'occurrence, ils ont 14 et 15 ans, les deux premiers mis en cause. Et donc, je reviens à mon histoire. là cette fois-ci d'homosexuels. Alors cette fois-ci, dans le premier cas, tous les interpellés étaient de nationalité française. Cette fois-ci, les quatre personnes interpellées ce matin, vous avez deux mineurs tunisiens, un majeur français et un majeur algérien en situation irrégulière. Et là, c'est pareil, ils ont tabassé, humilié et ils volent de l'argent. Là, en l'occurrence, ils avaient pris sa carte bleue, ils ont forcé leur dernière victime, parce qu'il y en a quatre ou cinq ces derniers temps. Donc à chaque fois, vous avez une forme d'expédition punitive, doublée évidemment d'un motif crapuleux. Et ça n'est absolument pas anecdotique, puisque là, vous avez deux histoires aux alentours de Grande-Synthe. Et évidemment, avec la mort de Philippe, ça a mis la lumière, malheureusement, sur ces pratiques. Mais aujourd'hui même, à Cholet, vous avez une dizaine de personnes qui ont agressé une victime. Pareil, vous donnez rendez-vous et tout à coup, la personne avec qui vous avez rendez-vous siffle. Il y a une dizaine de personnes qui arrivent avec des battes de baseball et qui vous fracassent et vous volent votre argent. Avril 2023, une vingtaine de victimes d'un groupe qui visait des homosexuels à Limoges. Dijon, en novembre dernier. Fin janvier, à Metz, vous avez, pareil, trois hommes agressés et dépouillés. Il y a quelques semaines, 12 mineurs interpellés dans le Doubs, après avoir été piégés, eux, par les gendarmes. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des premières victimes, ils ont été piégés par les gendarmes sur l'application elle-même. Vous avez le procès de quatre jeunes majeurs à Châtellerault dans quelques jours. En septembre prochain, vous aurez surtout le procès géant, et peut-être que le nom de l'application vous dit quelque chose à cause de cet homme-là, le procès géant d'un retraité qui, pendant 10 ans, a utilisé cette application. Il droguait sa femme, il mettait des photos d'elle ou des vidéos sur cette application, et il la faisait violer en la filmant par des hommes. Vous avez 51 hommes âgés de 25 à 72 ans qui seront au tribunal en septembre. Ça a duré pendant 10 ans sur cette application, avec force vidéo, photo et appel au viol de sa propre femme. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive de ce qui se passe soit en procès, soit en interpellation policière. Juste ces derniers jours, tous les policiers de France connaissent cette application par cœur, malheureusement.
Question à Charlotte, comment comprendre que les enquêtes soient si lentes, que personne ne réagisse et que ces sites continuent à accueillir autant d'horreurs en toute impunité?
Parce que le mode de fonctionnement de ce site, mais il est malheureusement le symbole d'autres sites qui fonctionnent exactement de la même manière, il est organisé précisément pour que l'impunité soit totale pour tout le monde. Les propriétaires du site, les personnes qui sont dessus, je vous le disais, les données ne sont conservées que quelques heures. Donc les policiers, quand ils contactent les responsables, on va dire, ils ne finissent par avoir que les dates et heures de connexion. Point barre. Vous n'avez rien d'autre, en fait. Vous avez un pseudo qui ne vous ramène à rien. Évidemment, vous pensez bien que les adresses IP, ils savent très bien les gérer pour qu'elles soient intraçables. Donc, vous avez une date et une heure de connexion. C'est assez faible tout seul pour débuter une enquête. Il y a beaucoup d'autres réseaux et formes de chat, voire des plateformes de jeux vidéo qui fonctionnent exactement de la même manière. C'est-à-dire que le site se présente comme une interface et donc ne sont pas responsables des contenus. Donc au moment où il se passe quelque chose, bah personne n'est responsable en réalité, sauf si vous finissez évidemment par avoir la personne en particulier. C'est pour ça qu'il y a plusieurs affaires dans lesquelles les policiers ou les gendarmes infiltrent l'application pour donner rendez-vous et donc poursuivre ces personnes-là. Quand vous interpellez quelqu'un, quand vous êtes policier ou gendarme, vous n'avez que les quelques heures de la garde à vue pour construire votre dossier et pour qu'il tienne devant la justice. On a souvent parlé de ça. Donc pendant ces heures-là, il faut déjà que vous ayez des éléments avant d'interpeller, c'est la fameuse judiciarisation avant d'interpeller, pour que ce soit solide et qu'il y ait une suite à vos interpellations. Ça, c'est vrai pour les prédateurs qui se servent de ces sites-là. On a beaucoup parlé de prostitution de mineurs qui existent sur ces sites-là. Et dans le cadre des guet-apens, c'est d'autant plus difficile pour les forces de l'ordre que les victimes qui se retrouvent dans ces situations ont énormément de mal à parler. Souvent, elles ne portent pas plainte parce qu'elles n'ont absolument pas envie d'expliquer aux gendarmes ou aux policiers ce qu'elles faisaient à ce rendez-vous et comment il est arrivé. Donc c'est extrêmement difficile. Et notons que dans l'affaire, dans le dossier de Philippe Koopmans, les mineurs, en l'occurrence les deux premiers en tout cas, qui ont été mis en examen pour assassinat, n'en étaient pas à leur première agression. Il y a plusieurs affaires dans lesquelles ils sont soupçonnés pour l'instant. Et ils étaient sous mesure éducative pour des affaires précédentes de vol et de violence. Et donc, ils sont sous mesure éducative, mais pendant que la police les suspecte et monte des dossiers, il n'y a aucune communication, évidemment, puisque ce sont des affaires séparées. Donc, dites-vous bien que la mesure éducative qu'ils sont en train de suivre en attendant leur procès pour obtenir leurs sanctions, qui seront en mai et juin, en l'occurrence, pour ces deux-là, leurs éducateurs, qui déjà ont du mal à les suivre parce qu'ils sont assez peu nombreux, ne sont même pas au courant des affaires sur lesquelles ils sont en train de travailler. Et personne, vous le disiez en introduction, ne songe à tout simplement exiger la fermeture, au moins bloquer l'accès à ces sites par les fournisseurs d'accès. Parce que la fermeture, évidemment, c'est difficile, ça dépasse nos frontières. Les fournisseurs d'accès, on a su le faire. Personne ne le demande, sauf toutes les associations de protection de l'enfance, ça c'est sûr et certain. Les associations de défense des personnes homosexuelles, parce qu'il y a eu beaucoup d'affaires concernant les homosexuels. Et on a la chef du pôle stratégie de l'Office des mineurs. Alors là, ça dépasse de loin. Qui s'alarmait il y a quelques jours, parce qu'elle sort un livre, qui s'alarmait de l'explosion de la pédocriminalité. Donc là, c'est l'autre face sur les réseaux. Et elle disait, je la cite, « Les parents pensent que leurs enfants sont en sécurité dans leur chambre. Et c'est de moins en moins vrai. » Donc vous accumulez à ça la prostitution des mineurs, les agressions et la mise sous emprise, alors là clairement, de mineurs à des fins sexuelles. Et bienvenue en enfer.
Merci beaucoup Charlotte, bienvenue en enfer, exactement. Et moi je vois par exemple dans mon association de famille monoparentale, des mamans qui donnent l'enfant, le portable à leur enfant dès l'âge de 6 mois.
Ouais, non, mais...
6 mois, comme babysitter, en toute impunité.
Oui, la babysitter peut être dangereuse. Hein.
Ouais. Incroyable.
Malheureusement, il n'y a pas que les familles monoparentales.
Bien sûr. Moi, je parle de ce que je connais.
Oui, bien sûr.
Parce qu'ils sont seuls pour tout faire.
On en revient au livre.
6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ensuite, merci en tout cas pour votre enquête. On en parlait tout à l'heure. Hashtag Mathilde Panot. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se passe après Rima Hassan, Mathieu Bock-Côté? C'est au tour de Mathilde Panot d'être convoquée par la Direction nationale de la police judiciaire afin d'être entendue librement pour apologie du terrorisme dans le cadre d'une enquête. Voilà. Plusieurs, ça vous surpris par cette convocation. Qu'en pensez-vous?
Je ne vous surprendrai pas, je donne tout de suite ma conclusion. Je trouve absurde, mais ensuite je donnerai mes raisonnements. Je trouve absurde une telle convocation. Je trouve absurde cette logique de censure qui se déploie sur un mode, mais qui frappe tout le monde en ce moment. Qui peut frapper un livre, Transmania, qui peut frapper un homme politique, Éric Zemmour, qui peut frapper d'autres figures politiques, les gens de la France Insoumise. Tout le monde trouve une raison en ce moment de censurer son prochain. Disons ça comme ça. Dans le cas précis dont nous parlons ici, de quoi s'agit-il? On s'en souvient, après le 7 octobre, il y a le communiqué de la France insoumise qui qualifie les événements. Et là, je prends la peine de le dire, c'est un communiqué que je juge odieux. C'est un communiqué que je trouve absolument condamnable. Dans ce communiqué, la question est de savoir si on doit ensuite traduire devant les tribunaux ce que l'on juge odieux. Dans le communiqué, on disait qu'il s'agit d'une offensive armée des forces palestiniennes en réponse à l'intensification de la politique d'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Donc, en gros, ça légitimait, ou à tout le moins, ça fournissait un cadre explicatif qui légitimait potentiellement, essayons d'être très, très pondérés, l'action du Hamas. Donc, alors, qu'on se comprenne bien, je trouve ça absolument atroce. La question de savoir si l'atroce doit être devant les tribunaux sur le plan moral. Ensuite, il y a aussi Rima Hassan, c'est important. Rima Hassan, donc, pourquoi se retrouve-t-elle, elle, pour dans la même accusation? Parce qu'on lui a demandé, lors de son passage au Crayon, c'est un site web assez, assez connu, vrai ou faux, le Hamas mène une action légitime, et elle avait répondu en janvier 2024, vrai. Alors, on comprend. Et ensuite, elle a précisé en disant « J'entends l'action politique ici, mais non pas les méthodes particulières du 7 octobre. » Elle a cherché à se défendre. Alors, on doit distinguer ici deux registres fondamentaux. Les propos en tant que tels, de quoi s'agit-il? Doit-on les qualifier moralement? Et ça, je pense que c'est clair ce que j'en pense, que plusieurs en pensent. Est-ce qu'on doit ensuite pénaliser une lecture particulière d'un conflit qui correspond, quoi qu'on en dise, au point de vue de plusieurs régions dans le monde et d'une bonne partie de la population en France? Est-ce qu'on doit pénaliser les propos qui nous semblent moralement scandaleux? Vous connaissez ma réponse en la matière et je pense que c'est la réponse de plusieurs. C'est même la réponse de tous les insoumis qui découvrent aujourd'hui la vertu de la liberté d'expression.
Vous me choquez, vous savez ça?
Je m'en désole.
J'aime bien votre réponse. Non, mais je veux dire que, par exemple, quand on dit la liberté d'expression, c'est dans le cadre de la loi. C'est dans le cadre de l'incitation à la haine. C'est quand même très limité par la loi.
Ah, et vous avez raison.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, ben, c'est très limité. Vous avez tout à fait raison.
Donc, nous connaissons votre défense maximaliste de la liberté d'expression, Mathieu. Mais dans la présente séquence, n'y a-t-il pas des limites à ne pas franchir? Celle de la décence.
Ah, ben, vous avez tout à fait raison. Je pense que les limites de la décence ont été franchies. mais les limites de la décence ne sont pas celles, je crois, encore une fois, de la liberté pour, d'expression en général, et là pour des politiques. Qu'est-ce qui est jugé? C'est le communiqué du groupe parlementaire LFI. C'est une position politique assumée que l'on peut condamner. Cette position politique sera, on la présente finalement devant les policiers et ensuite devant les tribunaux. Donc désormais, est-ce que nous vivons dans un pays, est-ce que nous vivons dans une société, dans une civilisation où les groupes politiques, quels qu'ils soient, peuvent retrouver leur position devant les autorités qui vont juger ou non sur le mode policier, sur le mode d'une restriction de la possibilité du disciple de ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas. Est-ce que c'est véritablement... Est-ce qu'on doit fliquer les positions politiques des uns et des autres? Vous avez raison, la liberté d'expression, c'est dans les paramètres de la loi. Je suis tout à fait d'accord. Il se peut, par ailleurs, j'espère ne pas transgresser la liberté d'expression autorisée, en disant que ces paramètres sont complètement déments, à mon avis, en ces matières. Qu'on a, depuis 40 ans, au moins, on a multiplié les interdits, en expliquant toujours, oui, mais ça, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et puis là, les délits se multiplient. Et c'est quoi le problème? C'est que finalement, tout le monde finit par passer au délit. Alors, Mme Panot dit, c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente d'un groupe d'opposition est convoquée pour un motif aussi grave. Il faut simplement être clair, Mme Panot est une spécialiste, comme tant d'autres, aujourd'hui, de la poursuite de ceux qui ne pensent pas comme elle, des déviants idéologiques. Alors, j'aimerais rappeler une chose, en fait, à tous les partis, quels qu'ils soient. Un jour, ces lois qui visent à pénaliser la liberté d'expression vont tomber sur vous. Vous pensez... Le scandale des uns n'est pas toujours le scandale des autres. L'interdit moral des uns n'est pas toujours l'interdit moral des autres. Le problème, c'est que les insoumis me font penser aux communistes qui, dans les années 50, l'Union soviétique plaidait pour le désarmement et la paix. Hein, c'est la même chose. Il y a une forme d'hypocrisie institutionnalisée dans une certaine gauche, mais aujourd'hui, je défends malgré tout leur liberté d'expression, même si, quant à moi, de mon côté, de ma liberté d'expression, je qualifie leur position d'odieuse et d'hypocrite.
Merci beaucoup, Mathieu, pour votre grandeur d'âme. Alors, c'est intéressant parce que c'est l'organisation juive européenne, entre autres, qui a porté plainte dans ce cadre-là. Et je vais juste terminer avec un tweet de Rima Hassan à propos de cette organisation juive européenne qui dit « On n'en restera pas à l'absence de poursuites me concernant. Je ne connais pas la capitulation. Je vais vous traîner devant la justice comme on ne vous a jamais traîné, vous et vos complices. J'ai le temps et l'argent. Vos 50 avocats n'y feront rien. » Réaction ?
Ah ben, il n'y a pas de doute, elle est déterminée, elle est acharnée. Je pense que si ses adversaires étaient aussi acharnés, aussi déterminés de temps en temps, peut-être que le débat politique serait plus équilibré. Mais hein, vous savez, la gauche, jamais elle ne se couche. Elle contre-attaque toujours. Pendant ce temps-là, les gens de droite, entre guillemets, chouinent, s'excusent, demandent pardon. Hein, et ça, ils se font frotter les oreilles. Ils disent, excusez-nous, on ne leur fera plus. Elle n'est pas dans cet état d'esprit, même si par ailleurs, ce qu'elle dit est odieux.
Merci Mathieu, merci à tous. L'heure des Pro 2 avec Pascal Pro.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.